nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Il doit quitter le coin. C'est devenu dangereux pour lui. Il doit de l'argent à tout le monde. Alors il va partir aux Amériques comme voyageur clandestin dans un cargo de marchandises. Il y a une semaine, il a rencontré un marin, un jeune blond dans les 20 ans. Il lui a dit ses malheurs parce qu'il était un peu saoul. Le jeune lui a dit qu'il pouvait le faire entrer dans le bateau la nuit sans se faire voir, en échange de quelques sommes, d'une certaine somme. Luc, ou plutôt Yann, lui a dit d'accord. Et le marin lui a donné rendez-vous pour cette nuit sur le port. Il lui a donné le nom du bateau et le lieu du port. C'est pas difficile, le bateau s'appelle le Neptune. Et le quai, c'est le numéro 2. Voyez ouais, Yann qui lui a donné l'argent. Tout en sortant du café, le jeune lui a dit, je viendrai te chercher, reste devant le bateau. Yann, maintenant, va au port. Il va s'en aller et quitter cette ville pourrie. Une fois en Amérique, il pourra se faire une nouvelle vie. Il pourra faire autre chose. Fortune en un rien de temps. On dit qu'on donne des terres aux colons, qu'on peut même être chercheur d'or. ou de mine, de cuivre ou de charbon, et même de cette chose étrange, cette boue noire que l'on appelle du pétrole. Tout est permis dans ce nouveau monde. Pas de loi, rien. D'immenses étendues vierges que l'on peut prendre. Il rêve à tout ça. De cette vie facile. Enfin, il arrive au port. Enfin, il arrive au port. Il fait nuit. C'est assez lugubre. Avec ses grues, ses ombres bizarres, ses conteneurs, ses gros bateaux, ses pas, ses chuchotements. Yann ne se sent pas à l'aise. Il doit faire attention. En plus, des trafiquants, voleurs de toutes sortes. Et puis, il y a des gens bizarres. La police qui surveille les marchandises et les gens. Il y a les ambigus, les gens qui circulent. Il ne faut pas qu'ils se fassent prendre. Il entend le bruit de l'eau et le bruit des chaînes. Des sirènes, un chat qui passe, il marche sur le pavé mouillé en longeant la berge jusqu'au quai numéro 2, longe de grands pas que beau. Il n'en sort aucun bruit. Ce sont de grandes masses noires, d'immenses baleines géantes et noires. Il marche sur le pavé mouillé en faisant attention aux chaînes à terre. Enfin, il arrive au quai numéro 2 et là, il voit un grand vide, que de l'eau. Il se dit, c'est pas possible, où est le bateau? Il regarde bien, de toute façon, c'était pas une barque. Ça se voit un paquebot, rien, la mer, sur toute la longueur du numéro 2. J'ai dû me tromper de quai, où il y a deux quais numéro 2. À moins que ce soit plus loin, alors il y va. Il tombe sur un paquebot. Et qui s'appelle le Titan. C'est pas le Neptune. Où est le Neptune? Peut-être sur un autre quai. C'est peut-être le 22 ou quoi? Le marin a dû se tromper. Énervé, il reprend sa marche. Et regarde le nom des bateaux, mais pas de Neptune. Il n'a pas mangé de toute la journée, il commence à avoir faim. Merde, où est ce bateau de nom de Dieu? Il faut qu'il le trouve et qu'il parte. Parce que il n'a plus d'argent et que tout le monde le recherche, il va de sa vie. Il continue à marcher, énervé. Le port, c'est long. Et la nuit, ça paraît immense. Surtout si on ne sait pas où l'on va. Sort de derrière un conteneur, un jeune, mince dans les 16 ans, blond, habillé de blanc. C'est un marin ou un mousse. Il demande à Yann, « Salut, tu cherches compagnie ?» Yann lui dit agacé, « Non, cherche un bateau !» Je lui dis, « Tu peux, si tu veux, t'accrocher à moi, tu me suces ?» Non, cherche un bateau, le Neptune. Je nous ses épaules et dit, tu vas trouver, c'est mieux. Moi, je suis fils de Neptune. Le jeune essaye de s'accrocher à lui avec ses bras qu'il veut mettre autour du cou. Yann se dégage et lui dit, laisse-moi, fous-moi la paix. Le jeune s'éloigne et lui crie, pauvre con, tu t'es fait enculer, ton bateau est parti. Et le marin qui t'a demandé de l'argent est parti aussi. Yann fonce furieux sur lui, le plaque contre un conteneur et lui dit, ne me dis pas ça, je suis perdu si c'est la vérité. Il lâche ce jeune garçon qui s'éloigne. Il est de plus en plus énervé, fait noir, triste, il n'y voit rien. Et lui, il n'en peut plus. Au bout d'un moment, il se dit, qui s'est fait avoir? Le bateau a dû partir sans lui. Quitte le quai. Que va-t-il faire? Il ne peut plus retourner à son hôtel. Sans argent, rien. Déambule dans les rues, au hasard, les rues désertes et étroites, lépreuses de cette ville du diable, la plus laide de toutes, qui ressemble à un décor représentant l'enfer. Sa population, ce ne sont que des rebuts de la société. Repère de bandits criminels de toute nature. Yann se demande ce qu'il va devenir. Tout d'un coup, il se sent tiré par derrière, se retourne. Oh, que c'est un homme grand maigret, avec l'autre main qui ne le tient pas, un couteau. Il est habillé d'un costume noir. Il dit à Yann, qui dévisage surpris, « Enfin, je te retrouve. Tu sais que tu nous dois de l'argent. Viens avec moi. On veut être sûr que tu nous rembourses. Tu n'allais tout de même pas t'en aller. Non. » Yann ne dit rien, il est apeuré, viens. Et il le pousse devant lui. Yann se dit, voilà, je suis perdu, quelle poisse! L'autre le pousse dans les rues désertes. Et le fait entrer dans une allée d'une ruelle sombre et humide. Ça sent mauvais. Il fait monter les escaliers étroits. Étage. Il frappe à une porte. Qui est-ce ?
C'est moi, Maurice.
La porte s'ouvre. Apparaît un homme, maigre, moustache grise, yeux globuleux, visage osseux. Cheveux chauves sur la tête et habillé d'un costume à rayures noires et blancs. L'homme dit
« Entrez !»
Maurice dit
« Je l'ai retrouvé !»
La pièce est sombre. Il y a une grande table avec des chaises autour. L'homme regarde Yann.
Enfin, te voilà, Luc.
Où étais-tu ? Yann ne répond pas. L'homme dit à Maurice.
Fais-le asseoir.
Fais asseoir Yann sur une chaise. L'homme s'assoit en face de lui. Et lui dit.
Alors, tu nous dois une bonne somme. Les dettes de jeu, c'est sacré. Tu dois payer. Ou alors tu risques de te retrouver flottant dans le port où tu me donnes ce que tu me dois cette nuit où Maurice s'occupe de toi. Alors,
Maurice dit,
il n'a peut-être pas d'argent.
L'homme dit,
s'il n'en a pas, à moins qu'il ait de la famille, alors elle pourra nous rembourser.
Yann lui dit, apeuré,
je crois que j'ai toujours ma famille.
L'homme lui demande,
et où est ta famille?
Elle n'est pas d'ici, elle est de...
Je connais pas. Maurice va aller avec toi pour prendre l'argent.
Yann lui dit, bien, mais il faut prendre le train jusqu'à... Après la diligence, c'est assez loin.
L'homme lui dit, ça n'a aucune importance. Allez-y.
Maurice te demande,
de suite?
Oui.
Plus vite ce sera fait, mieux cela vaudra. Et puis, il fait déjà jour. Et allez, allez-y. Et ne cherche pas à t'échapper. Les trains commencent à circuler. On peut y aller.
Et Yann suit Maurice. Yann et Maurice sont sortis. Yann est gêné. Alors pour gagner du temps, il n'a pas donné réellement l'adresse. Et qu'il va prendre un train qui fait un plus long parcours pour perdre Maurice. Il se dirige vers la gare. Les rues commencent à s'animer. Le pauvre Yann est épuisé. Nuit blanche et faim. L'autre tient bien par le bras, il a un couteau dans sa poche, il dit. Yann lui dit,
j'ai faim.
L'autre lui dit,
on mangera quand on sera arrivé.
Yann lui dit, ça risque d'être long. Ils arrivent à la gare. Il y a déjà un peu de foule. Ils vont au guichet. Yann commande deux places de deuxième classe.
Rodia, c'est l'heure.
Oui.
Le vendeur donne le prix. Yann demande à Maurice. Tu payes, j'ai rien.
Mais je me sens pas chez moi ici. Moi non plus, je me sens pas chez moi.
L'autre donne l'argent au vendeur. Du temps, les billets, ils sont dirigés vers le quai pour attendre le train. Il y a de plus en plus de monde sur le quai, car le train va bientôt arriver. Enfin, le train arrive. Il y a de plus en plus de monde. Maurice est bousculé par un voyageur. Instinctivement, il lâche Yann. Il a lâché Yann. Qui lui en profite pour se sauver et se faufiler dans la foule. L'autre lui court après. Malheureusement, les voyageurs du train qui vient d'arriver, qui sortent des wagons, le bousculent au passage. Et ils ne trouvent plus Yann. Il continue à courir sur le quai. Il est arrivé sur le quai qui est en face de l'autre. De l'autre train. Vite, il décide, c'est de prendre le train qui est en face de celui qu'il devait prendre. Parce qu'en prenant celui-là, il pourra ne pas être rattrapé par Maurice. Vite, il prend le passage pour aller de l'autre côté.
Tu m'en verras, ta...
Et entre dans un wagon. S'assoit dans un compartiment, essoufflé, à pleurer. Se cache de la vitre. Les gens du compartiment le regardent d'un drôle d'œil. Il a hâte que le train s'en aille. Il regarde à la dérobée, l'autre côté. Et voit que le train qu'il devait prendre s'en va. Je dis que Maurice a peut-être pris ce train-là et qu'il ne pourra plus le retrouver. Et celui-là va de l'autre côté. Il ne sait pas vraiment où, mais ça n'a pas d'importance. Puis, Maurice ne risque pas de trouver sa famille parce qu'il a donné d'une façon assez vague l'adresse. C'est impossible qu'il la retrouve et qu'il le retrouve. Ouf! Il se sent libre, libre, oui, libre, libre. Les portières se ferment. Le sifflet pour donner le départ. Et le train se met en route. Ouf! Où il va, ça n'a pas d'importance. Le train doit aller à Paris. Là-bas, il se débrouillera. Et puis, arrivé à Paris, il faut reprendre le train pour rentrer chez lui. Il verra bien. Se détend et s'endort. Le roulement du train le repose. Il a toujours faim, mais que faire? Il est réveillé par un bruit et il voit que c'est le contrôleur qui est dans le compartiment, un gros homme à moustache. Il se dit, merde, et puis zut, j'ai un billet. Le contrôleur lui demande, billet s'il vous plaît monsieur. Diane lui montre le sien. Le contrôleur le regarde et lui dit, il y a erreur monsieur, ce train va à Paris. Et elle lui dit, ça n'a pas d'importance. L'homme soupire, regarde le prix, lui dit, vous avez de la chance, comme c'est le même prix. Je ferme les yeux, mais ne recommencez pas, et s'éloigne. Les gens du compartiment, une famille de ploucs, le père, la mère, la fille, tous laids et ridicules, le regardent d'un mauvais œil. Il y a même à côté de lui un curé maigre qui fait semblant de lire son bréviaire. Regarde à la dérobée Yann avec un sourire coquin. Il décroise les jambes et les écarte pour les mettre contre celles de Yann. Le curé doit penser que ce jeune garçon a fugué et qu'il a besoin d'aide, d'une protection. Il faut protéger les brebis égarées, n'est-ce pas? Yann se sent gêné au milieu de ces visages soupçonneux et de ce vieux lubrique qui serait capable de sauter sur lui dans le noir d'un tunnel. Il sort du compartiment, souffle un peu, marche dans le couloir. Il y a quelques personnes qui fument des cigarettes. Yann s'éloigne et s'arrête dans un couloir seul. Regarde le paysage. C'est la campagne, il fait jour. On voit la fumée noire de la locomotive. Des prés, à perte de vue. Quelques vaches et des fois des collines pour couper la monotonie. Une ou deux maisons pour vous dire que l'on parcourt un endroit où il y a tout de même quelques humains. Je dis que c'est bizarre de voyager en train. Je dis que c'est bizarre de voyager en train. On se trouve dans un endroit protégé du monde, hors du monde, avec ses lois propres, son organisation propre, ses besoins propres. Donc, on est dans le train. Les autres que l'on voit par la fenêtre, dans le paysage, sont dans un autre monde. C'est bizarre. C'est eux qui semblent morts. Et l'on dirait qu'ils vivent dans un monde de morts, avec leur peine. Parce que dans le train, les wagons, il y a foule. Alors que dehors, il n'y a presque personne. Et puis on va plus vite qu'eux. Eux le temps, on a l'impression qu'il s'est arrêté. Ils vont tellement lentement. Ils vont tellement lentement. Et nous si vite, on n'a pas le temps de les voir évoluer. Trop d'impression. Qu'est-ce que vous regardez? Moi, je vais parler. Et je retourne et sursaute. Et vois que c'est une femme blonde, mince, dans les 35 ans, cheveux en chignon, habillée d'un manteau bordeaux, de belles coupes, ouvert le manteau qui monte une robe beige. Puis sourit et lui dit « Quoi ?» Elle lui dit « Qu'est-ce que vous regardez ?» Il lui dit « Rien. » Elle lui fait « Semblez. » Regardez, ne pas regarder. Rien. Il lui dit « C'est-à-dire le paysage. C'est-à-dire rien de spécial. » Elle lui fait « Et alors ? Le paysage, c'est tout. » Elle lui fait « Oui, bien sûr, on peut voir que ce que le train peut nous montrer, il lui dit. Oui, elle lui dit, j'adore les voyages. Elle bouge les épaules, mais je suis seule, ce n'est pas très drôle. Il lui dit, moi aussi. Elle lui demande, vous alliez où? Il lui dit, c'est un peu compliqué. Je dirais, c'est que... Je dois aller à un endroit et que j'étais obligé, c'est d'aller à l'opposé. Et lui demande, et pourquoi toutes ces complications? Parce que j'avais un mauvais compagnon. Et lui fait, je vois, moi-même, j'ai tout fait pour me débarrasser de mon mari. J'étais obligé, c'est d'abandonner mes bagages pour le laisser. Mais c'est vieux tout ça. Il a très faim, il se met à veiller. Un pied qui ne soit pas très propre, il a un côté charmant, distingué et très joli garçon. C'est plus jeune que son âge. Elle l'a vu varier. Elle lui dit, vous avez faim? Oui, hélas, elle fait. Vous n'avez pas de quoi vous payer le wagon. Le wagon restaurant, je veux dire. Non. Je n'ai plus rien. Elle fait. Moi je peux. J'ai faim aussi. Ils iront ensemble. Comment vous vous appelez? Marc. Elle fait. Vous tiendrez compagnie. 5 minutes plus tard, on sonne pour le premier service. Elle lui dit, venez. Il la suit, tout heureux, et se dit qu'il a la chance, même s'il faut lui offrir un petit cadeau, un petit plaisir. C'est une belle femme, ce ne doit pas être trop ennuyeux. Arrivé au wagon restaurant, un serveur leur met une table en face de l'autre et leur apporte les cartes et lui dit, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il lui dit, je voudrais comme vous. Elle lui dit, très bien. Elle regarde la carte et dit, je prendrai une salade verte, une entrecôte, un gratin de pommes de terre et pour le dessert une tarte aux pommes. Est-ce que cela vous va? Il lui dit, parfait. Un quart d'heure plus tard, il mange. Tout en mangeant, il demande, vous vivez seul? Elle lui dit, oui, comme je vous l'ai dit, j'ai quitté mon mari. Je suis mariée très jeune. Et mon mari était beaucoup plus vieux que moi. Il était dans l'édition de romans à la mode. J'habitais Bordeaux, chez mes parents. Je ne savais rien de la vie sur cette passion du pensionnat. Et j'étais éloigné du monde. Je vivais avec ma mère. C'est un ami de ma mère qui s'est mis à m'aimer. Puis il a voulu que toute la famille aille à Paris. Ma mère a accepté. Là, à Paris, il m'a éduqué, m'a appris à m'habiller, à me tenir. J'ai rencontré des tas de gens. Pour moi, je vivais un véritable tourbillon. Je savais plus où j'en étais. Ma mère non plus d'ailleurs. Et puis un jour, il m'a demandé un mariage. Je ne savais plus. Ne parlons pas de lui, comme d'un futur fiancé pour moi. Mais je ne pouvais refuser. Il m'avait tellement donné. Et puis, je ne connaissais pas d'autres hommes. Alors, j'ai dit oui comme ça. J'ai vécu des choses avec lui comme une petite fille. Rien d'autre. Il était très gentil, très venant, se comportait bien avec moi, comme un père. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je voyais les choses pas de la même façon. Je voulais autre chose qu'un père. Je devenais très belle et l'on me regardait dans les rues. Les jeunes gens, surtout. Mais moi, je me suis aperçu qu'on me regardait et j'ai comparé ceux qui me regardaient. Je me suis dit que mon mari se comportait plus comme un père avec son enfant, eux, comme un mari avec sa femme. Alors bien sûr, je me suis laissé confiser. Et plus je le faisais, plus je supportais mon mari. Lui en était triste, mais gardait sa jalousie pour lui. N'en parlait pas. Moi, je devenais de plus en plus insouciant vis-à-vis de lui et de plus en plus attiré par les jeux de somme. Je me trouvais désirable et je me sentais prisonnière d'un seul homme. Alors, il y avait des tas de jeunes gens que je voyais. Un jour, je demandais ma liberté à mon mari. Il a bien entendu refusé, me disant qu'il m'aimait. Moi, j'étais furieuse. Mon ami et moi avions décidé de partir ensemble et de tout quitter. Je faisais mes valises et je partis à la gare le rejoindre. Mais mon mari aussi, qui avait appris la chose, est allé à la gare pour m'empêcher de prendre le train. Alors, juste avant qu'il ne parte, je suis rentré dans le wagon en laissant mon mari avec mes valises sur le quai. J'ai retrouvé dans ce compartiment mon ami. Nous sommes partis en Italie. Notre amour n'a duré, hélas, que le temps du voyage. Je suis revenu, mon mari ne voulait plus me reprendre. Alors je suis retourné chez ma mère. Mon mari, bonhomme, me donna une rente annuelle. J'ai ouvert une petite boutique de chapeau, boulevard Saint-Honoré. Marie a décédé. Et comme je n'étais pas divorcé, j'ai hérité de lui. Maintenant, j'ai une petite maison de couture et pistole. Voilà, c'est tout. Voilà ma vie. Petite, moi, rien de bien intéressant. Je suis une famille de propriétaires terriens dans un pays perdu. Je ne travaille pas, je fais beaucoup de dettes. C'est la cause de mon départ précipité. Je vis seul. Et lui demande, et à Paris, vous y allez? Il lui dit, oui. Elle lui dit, je bois et qu'allez-vous y faire? Je ne sais pas. Je bois et il continue à manger. Puis, ils sont allés dans son compartiment de première classe. Elle lui a parlé de Paris, de la mode, des spectacles, des opérettes de feedback, de l'impératrice et de ce Paris qui se démolit et se reconstruit à une vitesse folle. Après plusieurs heures de train, ils arrivent enfin à Paris. Il fait nuit et un peu froid. sortent du train. Il y a foule dans la gare. Yann est un peu perdu. Ça sent mauvais. La fumée, le bruit, la bousculade, il la suit.
Salut, Brodé.
Une fois sorti de la gare,
et quand
c'est
je
pire.
Lui ai dit que je n'étais pas Madame Jekyll.
Il se trouve sur une place. Et sur cette place, autour de cette place, il y a des rues. Avec des tas d'omnibus, de carrioles, de fiacres. Il y a la foule. Il y a la foule sur les trottoirs. Il ne sait
que
plus.
Que je te reprenne, tu m'as pas regardé, que je te reprenne.
En face de la place, il y a...
Margaret, écartez-vous, s'il vous plaît.
Un grand immeuble.
Bonjour, docteur.
Bonjour, Margaret.
Où se trouve une grande brasserie.
Margaret.
Le tout illuminé.
Très bien.
De lampadaires à gaz. Yann se sent perdu. Il a un petit sac de voyage. En toile
salut,
rouge,
beauté.
Comme son manteau, une bande. Tu sais
quand
où aller
que je n'étais pas Madame Jekyll. Super
sensationnel, son
valeur, on est
fait
tout ça. Elle lui dit.
Morte, la souris de mes fers, il n'a pas son journal. Morte.
Alors,
un docteur
viens avec moi. Je vais en prendre un fiat. Viens. Il la suit tout heureux. Elle est un fiacre. Elle lui dit, je vois, vous allez venir avec moi. Si on prend un fiacre, venez.
Demandez le Gaulois.
Il la suit tout heureux. Elle, un fiacre.
C'est Régis.
Tu t'affoles tout.
Ils entrent. Elle dit au cocher, boulevard Saint-Honoré. Et le fiacre se met en route. Il regarde la ville, ébloui et surpris. Ces lumières, ce monde, cette circulation, ces beaux immeubles et ces palissades qui entourent les chantiers. Elle lui dit, vous ne croyez pas que je fais ça avec tous les jeunes gens. Vous, ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas Titi parisien.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Semer le vent. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.